Bonjour Marie-Hélène Lafon.
Bonjour.
Je voudrais m'attarder sur la citation de Vincent Van Gogh qui a traduit votre roman « La tristesse durera toujours ». Qu'est-ce qu'elle dit de l'histoire que vous nous apprêtez à nous raconter, cette phrase-là ?
Elle en dit quelque chose de terrible, qui paraît incontournable, qui paraît fatal, et le durera toujours. Dit la ténacité à continuer, à demeurer vivant, qui est celle de Gilles, le personnage masculin de hors champ.
Il y a en effet deux personnages dans ce livre, Claire et Gilles, qui sont frères et sœurs que l'on va suivre pendant plus d'un demi-siècle. Ils sont nés dans une ferme du Cantal. Elle va devenir professeur et écrivain à Paris. Lui va reprendre la ferme au moment où ce métier d'agriculteur subit des transformations radicales. Vous illustrez la perte de sens de ce métier. Et j'ai l'impression que ça vous transperce le cœur, comme si l'autrice était très touchée derrière ce personnage.
On n'écrit pas ça sans être embarqué. Vous savez, on dit, je crois en anglais, « embedded ». Et j'aime bien ce mot, « E-M-B-E-D-D-E-D ». Il y a « bed » dedans. J'ai compris il y a peu de temps que ça voulait dire « dans les mêmes draps ». Voilà, « dans le même lit ». Voilà, bon, eh bien, quand on emploie une matière pareille, on est dans ces draps-là. Et c'est une sacrée empoignade. Il y a une implication. Il y a de l'émotion. Pas de pathos, j'espère.
Non.
Parce que ça ne serait pas digne. Mais de l'émotion, oui, évidemment.
Ce livre, dans le contexte actuel de très grande colère du monde agricole, il se lit, je trouve, et il résonne très particulièrement. Est-ce que beaucoup de choses se sont jouées à cette période dont vous nous parlez, les années 70, 80, 90, selon vous ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, des orientations politiques qui ont été prises. Et je ne suis pas une spécialiste de ces questions et encore moins une passionnaria ou un porte-parole. Mais le hasard de la naissance m'a placée dans un monde où j'ai été témoin de cette perte de sens. Et j'ai été témoin aussi de ce que cela implique comme mutation psychique de gagner sa vie non pas avec le prix des produits que l'on vend, mais avec des primes que l'on perçoit et qui vous sont octroyées par un système dont l'opacité vous échappe complètement. Et je pense qu'il y a en effet, des orientations qui ont été prises il y a maintenant 40 ans ou 50 ans, parfois avec la meilleure bonne volonté du monde, d'ailleurs, pas toujours, hein, mais parfois. Lesquelles orientations aujourd'hui mettent un certain nombre de gens dans des situations totalement explosives et invivables.
Alors Claire et Gilles n'ont pas grand-chose en commun, mais ils vont tout de même conserver un lien toute leur vie. Et je trouve que c'est un très beau livre sur ce lien de parenté-là, ce que ça signifie de venir de la même famille et de la même terre. Il est unique au fond, ce lien.
Oui, c'est très juste ce que vous venez de dire là. La question du lien est fondamentale dans ce livre. La matière de ce livre, c'est le lien dans les fratries. Ce qu'il advient du lien dans les fratries, c'est très banal, très ordinaire. Chacun peut voir ça, le constater, parfois même le vivre dans sa propre existence. Ce qu'il advient quand la vie passe dans les fratries, quand la vie nous passe dessus et que les trajectoires divergent. Que reste-t-il du lien ? Surtout quand les parents ont disparu. Comment reste-t-on présent l'un à l'autre ? Là, en l'occurrence, comment reste-t-on présent l'un à l'autre alors que les trajectoires paraissent extrêmement opposées, aussi opposées et aussi éloignées l'une de l'autre qu'il est possible, puisque non seulement cette sœur part à Paris, elle fait des études, elle devient professeure, elle devient écrivain. Et le frère, on le sent bien, est totalement privé de mots. Là, on a une distance énorme, vertigineuse, abyssale, qui n'empêche pas le lien.
Oui, et qui est très ténu, mais très très beau et très fort. Il y a beaucoup de choses, ceci étant, qui restent hors champ, qui sont passés sous silence. Vous illustrez parfaitement la difficulté parfois de dire les choses et à quel point ces silences, ils peuvent faire mal.
Oui.
C'est toute cette douleur hors champ qui est magnifique dans ce livre.
Oui, oui, oui. Et en effet, le titre est aussi lié à ça, hein, au fait que des choses ne seraient pas dites, mais on les sent bruisser dans les silences et dans le blanc des marges. Et toute cette douleur tue, ravalée comme on ravale sa salive, évidemment qu'elle fait du malheur. Et on comprend très très bien que la trajectoire de ce frère, en dépit de sa ténacité, de sa dignité, est une trajectoire de douleur, oui. Oui, on m'a parlé de chemin de croix, avec la dimension très catholique que ça a, ou très chrétienne si vous voulez, mais cette image du chemin de croix n'est pas fausse.
Oui, il n'arrive même pas, il n'a même pas la possibilité de formuler, par exemple, qu'il aurait aimé conduire un camion, que c'était ça le grand rêve de sa vie, par exemple. Et je trouve ça absolument bouleversant.
Oui, mais vous venez de dire très justement qu'il n'arrive pas à le formuler. Tout ce qui est de l'ordre du désir, de l'aspiration, de la sensation et de l'intimité est impossible à dire d'une manière ou d'une autre.
Vous réussissez au final à faire tenir 6 décennies en moins de 200 pages. C'est un exploit que vous avez déjà réalisé. C'est là votre format d'expression? C'est vraiment dans ce format-là que vous aimez déployer votre écriture?
J'ai envie de vous dire que je fais les livres que je peux. Je le dis toujours sans fausse modestie aucune, mais je ne peux pas déployer. J'écris court. Le premier jet est en général un peu plus long. J'ai plutôt tendance à retirer qu'à ajouter. Mais de toute façon, mes trajectoires sont courtes, c'est ramassé. La langue française a tellement de, comment dire, aussi bien dans la manière d'agencer les phrases que dans le choix du vocabulaire, on a tellement de possibilités de dire le maximum avec le minimum de mots que j'avoue que ma tendance naturelle me porte à aller de ce côté-là. C'est là que je cherche. Et il ne faut pas dire, Fontaine, je ne pourrais pas de ton nom, hein, mais ça m'étonnerait que je sois capable d'écrire plus déployé. J'ai tendance à penser délayé, vous voyez, ce qui n'est pas bien. Parce que ce qui est déployé n'est pas forcément délayé. Mais je vais toujours là. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si un jour ou l'autre, je vais pondre une saga en 3 volumes de 842 pages chacun.
Le jour où vous serez payé au mot, peut-être. Il y a des pages superbes sur l'émerveillement de la nature. Quand Claire revient dans sa région natale, et là, on ne peut pas s'empêcher de se dire que cet émerveillement de Claire, qui semble avoir des points communs avec vous, est votre propre émerveillement. Quel est le pouvoir de la nature sur vous?
Les paysages, il est puissant. Je dis volontiers que j'ai été frappée dès l'enfance d'une sorte de grâce dans le lien avec le paysage, le recours au paysage, le secours que l'on y trouve, vous voyez. Je dis volontiers que le paysage, que j'appelle corps du pays, vous embrasse au sens où il vous prend au bras. Embrasser, étymologiquement, c'est ça. Ça veut dire prendre dans les bras. Et le lien que j'ai toujours eu, même enfant, j'ai des souvenirs très précis d'un âge très jeune et que j'ai toujours encore aujourd'hui et qui n'a pas pâli, qui n'a pas pris une ride. Ce lien-là, il est nourricier, essentiel, pas fusionnel, puisque je m'en suis beaucoup éloignée de ce paysage et j'y reviens très très régulièrement, mais je le porte en moi tout le temps.
C'est-à-dire que comme votre personnage, vous dormez la fenêtre ouverte pour ne pas être coupé de la nature, même la nuit?
Pour l'entendre, oui, pour être bercé. Un paysage, c'est aussi ce que l'on entend et ce que l'on sent. Pas seulement, bien entendu, le registre visuel. Et ce que l'on entend dans les nuits, la fenêtre ouverte, c'est totalement fabuleux. C'est une véritable polyphonie. Et je ne parle pas de ce que l'on sent la nuit, sent.
Et ça veut dire que vous écrivez mieux aussi, à contact de la nature, ou pas forcément?
J'écris aussi beaucoup
au contact du bitume.
Oui, en milieu urbain. Oui, oui, j'écris partout. J'ai toujours fait feu de tout bois.
Marie-Hélène Lafont, vous signez Hors Champ au Bûcher Chastel, un très beau et petit roman qui est pourtant immense. Il contient des désespoirs, des silences, des fatalités, mais aussi de l'amour, des émerveillements. C'est un magnifique condensé de vie. Merci beaucoup.
Merci.